Oui.
Oui, oui.
A parte il fatto che ci vedere quando scade questi portodarmi, comunque.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non da vivere per niente.
Dis-moi, par où dire?
Train to Buffalo, New York.
135, it's all the way back 42.
42?
How do you go there?
C'est un art.
Pourquoi c'est important l'art? Pourquoi c'est important de le faire?
L'art,
façon de voir.
Une œuvre d'art, et elle a un auteur. Et pourtant, bah, quand elle est parfaite, il y a quelque chose d'essentiellement anonyme.
Façon de voir.
Façon de voir.
Façon de voir.
Alexandre Holan est un peintre d'origine hongroise. Il est âgé de 93 ans. Il peint des arbres, il peint des vies silencieuses, il présente ses œuvres à la galerie La Forêt d'Yvonne à Bruxelles. Alexandre Holan, éloge de l'immobilité. Les ateliers Zaventem, un laboratoire du design et de l'art, les ateliers se déplacent à la Villa en Pin et ils réactivent l'architecture de la maison à l'occasion de Collectible Brussels. Comment regarder un arbre? Réponse d'Alexandre Holan avec lenteur. Alexandre Holan est né à Budapest en 1933. Il passe son enfance à la campagne. En 1956, il quitte la Hongrie après le soulèvement contre le régime. Il est alors réfugié politique installé en France. Aujourd'hui, âgé de 93 ans, il peint des arbres et des vies silencieuses dans son atelier à Paris, mais également dans un mazet dans l'Hérault, une petite maison de vigne entourée de quelques arbres. Il peint ces arbres depuis les années 60. Alexandre Holan, ces arbres, comment les regardez-vous depuis tant d'années?
Mon enfance se passait près des arbres et j'ai eu ce contact comme enfant avec un être vivant qui est l'arbre, qui ne parle pas avec des mots, mais avec lequel on a une communication silencieuse, indiscutable.
Parce qu'il y a cette présence.
Parce qu'il y a en moi quelque chose qui vit quand ils sont là. Donc c'est une présence commune, une communion. Et c'est d'ailleurs cette communion que j'ai perdue après l'enfance. Dans l'école, on ne nous a pas appris comment retrouver quelque chose comme ça. Et après, quand j'ai quitté les écoles, les arts décoratifs et les beaux-arts à Paris, j'ai vécu longtemps seul dans la nature pour retrouver quelque chose qui m'était donné avant. Ce quelque chose, c'est ce contact qui passe par un moment, par un contact subit, une impression. Et cette impression commence à s'enrichir, à se développer, à créer une présence. Une présence vivante qui passe entre le motif et moi-même. D'ailleurs, je ne dessine jamais sans le motif ou sans quelque chose qui a déjà été longuement travaillé sur le motif.
Donc vous êtes toujours en conversation avec le motif, avec l'arbre.
Oui, c'est ça.
Marie-Hélène de la Forêt d'Yvonne, est la fondatrice de la galerie La Forêt d'Yvonne, qui fête ses 10 ans de présence à Bruxelles. Elle présente le travail d'Alexandre Holan, qu'elle connaît depuis plus de 30 ans. Qui est Alexandre? Parce que vous l'avez découvert, vous avez découvert, révélé son travail, dans quelles circonstances? Et tout d'abord, qui est Alexandre Holan?
Donc Alexandre Holan est un artiste d'origine hongroise qui était arrivé en France en 56, comme beaucoup d'étudiants. Et moi, je l'ai connu en 94. J'ai ouvert la galerie...
À Paris?
Oui, à Paris, en 88, dans le Marais à l'époque. Et ensuite, on a déménagé rue des Beaux-Arts. Et Alexandre Holan, je l'ai repéré dans une exposition sur l'art et le sacré, à Boulogne, disons à Paris, dans un centre d'art. Et il y avait une vingtaine d'artistes et Alexandre m'a complètement frappé. C'était des œuvres où on voyait très peu de choses en apparence. Et puis on les regardait un peu comme pour Rothko. L'œuvre montait et c'était des visages qui peut-être étaient à l'époque des visages du Christ.
Les œuvres qui sont présentées aujourd'hui ont été réalisées l'été dernier à Gignac, dans l'Hérault, des arbres et des natures mortes au fusain et à l'acrylique.
Oui, alors c'est deux sujets sur lesquels il travaille depuis des années et des années. Des natures mortes qu'il appelle « vie silencieuse » et sont faites avec des objets qu'il récupère, des pots usagés, un peu rouillés, verres de grisé, des vieux arrosoirs, vieilles bouteilles. Et il rajoute généralement un fruit qui va laisser aussi maturer. Et il se met sur un petit tabouret, presque à genoux, et il peint ce qu'il voit à l'acrylique, mais en travaillant l'acrylique comme de l'aquarelle, et d'une manière très lente, où les lumières et les couleurs, en fait, jouent les unes avec les autres pour donner une impression très émouvante.
Et en fait, on parle de sujet, c'est plus qu'un sujet, en fait. L'arbre, c'est votre rapport au monde, non?
C'est par l'arbre que je commence à exister, c'est vrai.
C'est énorme ce que vous dites.
Oui, comme vous l'avez déjà dit, je suis très vieux. Et pour vraiment rester dans le courant de la vitalité de la nature, j'ai absolument besoin de retourner constamment à cette source qui est la nature.
Nous avons trois dessins sous les yeux. Il y a un dessin qui est presque un réseau de traits, qui est en fait l'énergie. L'énergie, ce n'est pas une représentation essentielle de l'arbre, hein, ce n'est pas un condensé, c'est vraiment l'énergie que vous recevez de l'arbre et que vous traduisez sur le papier.
Ce dessin est une recherche où je fais confiance à l'énergie qui circule. Je n'essaye pas d'arrêter un processus, je n'essaye pas de regarder. Je laisse ma sensation voyager dans l'arbre. Et ça crée des réseaux qui se croisent, qui peuvent durer, qui peuvent m'amener dans un monde habité par l'énergie de la vie.
C'est la raison pour laquelle vous dites « je ne vois pas ce que je regarde », c'est mon meilleur point de départ.
Oui, c'est vrai que les images qu'on se fait sont nos pièges, ils figent quelque chose. Et le regard même, il peut ressusciter ce monde figé, mais seulement si la fixation est tout de suite, dès le début, niée. C'est-à-dire si je dis « je ne vois pas ». Une impression que j'éprouve devant la nature est une chose simple. Pendant longtemps, je laisse la situation s'apaiser. Je laisse effacer toute idée. Et à un moment, je sens que une impression est là. Une impression qui crée une résonance en moi et qui arrive comme de l'extérieur.
Est-ce que, Alexandre Lannes, est-ce que vous agissez comme les grands mystiques, c'est-à-dire vous fixez un certain temps et à un certain moment, vous ne voyez plus rien, vous ne voyez plus que l'illumination ou c'est une autre voie que vous suivez?
Je cherche à ne pas voir, ça c'est vrai. Mais du moment que l'œil touche le monde visible, touche dans l'arbre une branche, un bout où ça commence à vivre, je reste avec cette sensation. Je reste dans le visible, je reste dans le sensible. Donc je crois que à ce moment-là, je prends un chemin plus terrestre, plus réaliste
que les mystiques. Alexandre Lannes se place devant les arbres, immobile, il capte leur respiration, il trace un trait qui en appelle un autre. Cette immobilité est bien éloignée de nos agitations stériles autour de tout. Alexandre Lannes, est-ce que vous vous rappelez un premier éblouissement, c'est peut-être pas le mot, mais un premier arbre?
Au fond, le premier arbre, c'était dans mon enfance. J'étais sur une balançoire attachée à un arbre. Et ce lien, cette relation, je voulais à un moment l'interrompre. Je voulais descendre. Et je ne pouvais pas. Donc ce mouvement qui m'a lié à l'arbre a créé en moi, petit enfant, une grande angoisse. Et c'est cette angoisse qui était le départ d'un nouveau rapport avec la vie.
C'est étonnant parce que les enfants, souvent, ils ne restent pas immobiles, hein, ils sont toujours en mouvement et il semble que cela les rassure, alors que vous, ce serait plutôt l'immobilité qui vous aurait apaisé.
C'est tout à fait vrai. Pour moi, dans l'immobilité, il y a d'une part quelque chose qui est une présence que je quitte constamment, et d'autre part, cette présence, elle peut me retrouver quand je me ralentis, je me calme. J'ai un rythme, un certain rythme qui est le mien. Et ce rythme, déjà, il est plus lent que le rythme habituel. D'ailleurs, maintenant, dans la vie, je me sens tout à fait déphasé parce que je crois que je suis plus lent que les autres. Souvent, je ne comprends même pas quand on parle vite.
Vous me comprenez, là?
Oui, je vous comprends.
Le mouvement de la balançoire empêchait l'enfant de se situer, d'être précisément installé à une place fixe dans l'espace et de faire la mise au point sur la nature qui le fascinait déjà à l'époque. Il en a généré une angoisse du mouvement qu'il a tenté de calmer dans sa vie. Il a choisi l'immobilité pour se situer, ici et maintenant, dans un face-à-face complice avec l'arbre. Une exposition de ses toiles et de ses dessins est présentée à la galerie La Forêt d'Yvonne à Bruxelles. Nous retrouvons la fondatrice de la galerie, Marie-Hélène de La Forêt d'Yvonne. Il peint ce qu'il voit, mais il est surtout sensible à l'énergie des arbres. Il s'installe un long temps face à son sujet et c'est sa présence au monde, en fait, qu'il révèle.
Oui, et c'est vrai qu'il choisit des arbres qui le touche, qui lui parle. Il a l'impression qu'en fait, du ciel à la racine, en fait, il y a un lien pratiquement entre l'invisible et le visible qu'on voit. Et il a une quinzaine d'arbres à qui il donne d'ailleurs des noms, qu'il retrouve tous les étés dans son coin de l'Hérault, près de Montpellier. Et il les travaille au fusain, ou à l'acrylique en couleur. Et ce qu'il cherche vraiment, c'est de donner le sentiment de l'intériorité de l'arbre. L'arbre est habité et c'est vraiment aussi trouver à travers le visible, l'invisible.
C'est vraiment, c'est vraiment ressentir, partager la respiration de l'arbre, semble-t-il, partager la vibration du monde. Vibrer, c'est le titre de l'exposition.
Oui, vibrer, ça veut dire pour lui exister, en fait. Et pour lui, les arbres sont vivants. Il les respecte, il les aime, il les chérit, il les peint, il les dessine en les regardant comme des amis.
Fusain, acrylique.
Oui, c'est ça, fusain et acrylique. Très souvent, le fusain vient avant le travail en acrylique.
Et il y a un enchevêtrement de traits dans ces arbres. Il y a un surgissement lent de ces traits, semble-t-il. Et puis, parfois, l'enchevêtrement crée une espèce de sfumato qui enveloppe l'arbre d'un halo un peu vaporeux.
Oui, parce que comme pour lui, l'arbre est vivant et l'arbre émet des ondes, en fait, peut-être qu'on peut sentir comme un halo autour de l'arbre. Sans doute, lui le ressent. Et les lignes qu'il dessine ne sont pas forcément les lignes de l'arbre, mais plutôt, ce qu'il dit, les lignes de l'énergie de l'arbre.
Le souffle, on ressent le souffle du vent sur les feuillages, on ressent la respiration, on parlait d'énergie, la respiration de l'arbre, bon, tout est dans ces dessins, des dessins qui font illusion parce que l'arbre qui est représenté n'est pas vivant, vous l'avez fixé en fait, vous avez fixé la vision, alors c'est une quête aussi qui rejoint aussi cette quête d'immobilité, d'arrêter la vision, d'arrêter le temps et de donner en même temps l'impression de la vie.
Écoutez, je ne sais pas ce que les autres comprennent sous le mot espace. Parce que le souffle, c'est lié à la respiration. La respiration est notre nourriture d'espace. On inspire et on expire. Et un arbre aussi inspire et expire. Et dans ma vie, dans la manière de regarder, il y a ce qui est forme et ce qui n'est plus forme fermée, ce qui émane de la forme. Et c'est cette part invisible qui vient et qui, pour moi, fait partie tout à fait de l'arbre. Regardez, à un endroit, il s'affirme. Ses bords apparaissent clairement. On sent que l'énergie va dans cette direction. Et à l'autre, il y a une douceur, il y a quelque chose qui se fond au vide. C'est sa manière de s'inscrire dans un monde plus grand, plus subtil, qui est l'air.
Jean de Malherbe, vous dirigez la galerie La Forêt d'Yvonne à Bruxelles. Vous exposez le peintre Alexandre Holan. Vibrer, c'est le titre de l'exposition.
Oui, c'est un titre que je lui ai suggéré, qui m'est venu en regardant ses œuvres, en les fréquentant depuis si longtemps. C'est une vibration. Une vibration à la fois dans le trait, dans la couleur. Il y a comme une respiration quand on regarde une œuvre d'Alexandre Holan. On a l'impression de la voir vivante. Et donc, pour moi, c'est la vibration de la forme, mais c'est aussi la vibration du monde, qui est celle, je crois, qu'Alexandre Holan cherche à percevoir, à rejoindre et à retranscrire dans ses œuvres.
Vibration du monde, respiration de l'arbre. Il peint des arbres depuis les années 60. Il avait une petite voiture, d'ailleurs. Il circulait, il arpentait le paysage. Et il avait transformé sa voiture en atelier roulant.
Oui, c'est ça. Ça, c'était sa période nomade, à la recherche d'arbres, d'emplacements de nature qui lui permettaient de ressentir la vie des choses. Et puis dans les années 80, eh bien, il a arrêté sa petite voiture aux côtés d'un mazet, une petite maison de pierre sèche dans le sud de la France, dans l'Hérault, près de Gignac. Une petite maison de pierre sèche, toute simple, entourée de quelques arbres, quelques petits chênes battus par les vents dans la garrigue. Et ce sont ces arbres qu'il s'est choisi comme compagnon de route, comme sujet et comme fenêtre ouverte sur la vibration dont on parlait.
Compagnon de route immobile.
Voilà, compagnon de route immobile, un voyage immobile. Hein, Alexandre Holan, on le voit travailler accroupi devant son sujet, que ce soit les natures mortes, les vies silencieuses ou les arbres. C'est une méditation, mais voilà, l'immobilité parfois permet un très grand voyage intérieur ou vers le monde qu'il regarde.
La technique, fusain, acrylique.
Voilà, le travail d'Alexandre Holan, il a commencé dans le fusain pour les arbres. On le voit parfois dans des vidéos sur Internet qui sont excellentes. On le voit dessiner très lentement, au trait continu. C'est-à-dire que son trait a l'air de suivre son regard. Il ne suit pas les branches de l'arbre, mais son regard dans l'arbre qui en suit l'énergie. Ça, c'est vraiment le grand travail sur l'arbre qui est ensuite développé à l'acrylique pour l'apport de la couleur. Et c'est une autre recherche ici qui exprime à travers la couleur la respiration de son motif.
Il peint toujours les mêmes arbres, les mêmes objets qui apparaissent dans ces natures mortes. On peut penser, pourquoi pas, à Morandi, mais creuser toujours le même sujet. C'est une façon d'aller à la racine de la représentation.
Oui, je crois que les artistes, ils peuvent soit changer de sujet tous les jours, soit en trouver un et le garder pour toute la vie et creuser à travers là. L'œuvre d'Alexandre Holan est un témoignage extraordinaire de ça. C'est que dans un sujet, somme toute, très réduit, toujours des arbres, toujours les mêmes arbres, eh bien, il n'y en a pas deux qui sont identiques. Tous sont différents, chaque jour différents, et ils deviennent en fait le support à une introspection, à une exploration de l'émotion, du vivant. Et finalement, voilà, ils sont complètement transcendés par le regard de l'artiste.
Et vous, Alexandre Holan, vous avez une petite maison de vigne dans l'Hérault. C'est un espace qui est petit, mais vous avez besoin de ce lieu aussi avec quelques arbres autour, toujours les mêmes arbres que vous regardez. Mais ce lieu petit, c'est aussi un ancrage pour vous ou c'est une commodité ?
C'est une commodité parce que les arbres sont autour, parce que le silence est autour, parce que c'est un endroit isolé. Et parce que c'est un lieu. Un lieu, ça veut dire une place où les choses n'ont plus besoin de partir ailleurs, où tout est là. Donc ce lieu, pour moi, c'est à la fois cette petite maison sans eau, sans électricité, un peu simple. Maintenant, je peux aller dans le village, dans une autre maison pour trouver le confort manquant quand il fait trop chaud, mais c'est à cet endroit que la nuit et le jour, les arbres sont là, que je me réveille à 6 heures du matin, je suis déjà près de l'olivier qui m'attend ou près d'un chêne vert. Donc c'est un paradis d'une certaine façon quand il fait un temps paradisiaque.
Alexandre Holan, quand vous êtes devant un arbre de papier, quand vous êtes devant vos œuvres, est-ce que vous ressentez cette même communion avec l'arbre ? Est-ce qu'elle ressuscite d'une certaine manière ? Comment regardez-vous un papier ?
C'est pour moi un réservoir d'énergie. Et quand en hiver, je recommence, je retravaille, par exemple sur cet arbre, je mets quatre ou cinq dessins du même arbre devant moi, et petit à petit, les différentes impressions qui sont inscrites sur ces papiers me renvoient quelque chose des moments vivants. Donc, c'est un monde intermédiaire.
Alexandre Holan, c'est donc une exposition d'arbres que vous avez peint, dessiné et que l'on peut voir à la galerie La Forêt d'Yvonne à Bruxelles. Et il y a vos vies silencieuses. Est-ce un même rapport à l'objet ? Une vie silencieuse, c'est une nature morte en fait. Hein ?
Une vie silencieuse est une vie silencieuse beaucoup plus intime que ma relation avec un arbre. Les objets, je les ai au fond découverts plus tard que les arbres. Quand j'ai trouvé ma maison, la petite maison dans le Midi,
dans l'Hérault,
j'ai cessé de chercher à l'extérieur parce que j'avais un lieu. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé dans un mazet abandonné à côté de mon mazet, deux vieux pots. Et ces deux vieux pots dans lesquels j'ai découvert une relation qui vient d'elle-même, qui sort de la matière, qui rend une proximité très tangible. Au fond, les objets qui m'entourent, quand je les peins, sont à un mètre de moi, donc très près. Et lentement, je sens que, à travers leur usure, une forme de vibration lumineuse monte de la profondeur.
Et ce sont des objets extrêmement simples, ce sont des objets que vous avez manipulés ou que vous tenez à distance, évidemment, mais que votre regard rapproche.
C'est des objets très simples. C'est un seau rouillé que j'ai trouvé dans la forêt ou une casserole ramassée dans une décharge il y a 15 ans quand il y avait encore des vraies casseroles dans les vraies décharges. Et c'est ce monde d'usure comme un monde du passé, du vécu, du temps, m'entoure et dans laquelle je cherche mon motif.
Une vie silencieuse, c'est une nature morte. Il est question de l'impermanence, en fait, du côté temporaire des choses. En même temps, vous le fixez dans une image. C'est cette idée aussi qui a nourri cette histoire de la peinture aussi.
Une vie silencieuse, c'est des objets qui ne sont pas des objets. Parce que du moment que je cherche à mettre deux objets ensemble, quand ils se trouvent, ils forment quelque chose de nouveau, de différent. Installer une vie silencieuse composée de deux ou trois objets, c'est comme trouver une relation qui n'existait pas avant. Ça, c'est un travail très intéressant, très long. Souvent, ça vient tout de suite, mais quelquefois, je travaille pendant une journée ou deux pour trouver les bonnes résonances. Donc, quand cette relation est trouvée, il faut essayer de l'habiter, c'est-à-dire de trouver mon propre chemin du regard là-dedans. Parce que les objets ne bougent pas, ou bougent très 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 peu, enfin la vibration est à peine perceptible, on peut rester une heure et on commence à voir que les couleurs dégagent une autre couleur qui était derrière, mais c'est un monde très statique, que j'ai d'ailleurs pendant très longtemps cherché la profondeur là-dedans. C'est-à-dire le moment où je deviens vraiment, je me fonde à ces objets. et où je me fonde à ces objets, c'est-à-dire je suis dans une densité, dans une profonde pénombre, où je ne sais plus où commence la casserole, où se termine la vieille pomme qui somnole à côté. Et peut-être dans cette exposition, je fais le deuil de cette profondeur nocturne. Je cherche à remonter vers la lumière, disons.
Effectivement, il y a de la lumière dans ses œuvres, mais il y a aussi une ombre qui enveloppe cette lumière, semble-t-il, et qui donne une chaleur à ses couleurs aussi. Elles sont éclatantes, mais elles sont chaudes aussi. Alors, cette ombre, vous pouvez en dire un mot ?
L'ombre, c'est moi. Ou c'est la matière, c'est l'épaisseur. La lumière, c'est l'extérieur. L'ombre, c'est quelque chose qu'il faut traiter avec beaucoup de couches, avec beaucoup de profondeur. Et la partie lumineuse, c'est juste une couleur très très légère qui doit effleurer le papier. Et entre l'ombre et la lumière, il y a un contraste qui naît et qui l'illumine.
Vous, il y a de la vie toujours dans votre image. Comment arrêtez-vous une peinture ?
Une peinture vit dans l'inconnu. C'est l'inconnu qui la fait vivre. C'est pas ça. Et ce pas ça est notre lente expérience de ce que c'est que la vie. Oui. Les bonnes peintures sont pour moi vivantes. Elles sont, je crois, un chemin. Elles ne sont pas une conclusion. Un chemin, c'est aussi une question. Où elle m'amène ? Quel est ce pas ? Sur quoi il se pose ? Qui font que cette vie continue à évoluer, à se transformer, à travailler à travers nous tous ?
Alexandre Holan, vibré au CIMES de la galerie La Forêt d'Yvonne à Bruxelles jusqu'au 11 avril. Des notes et des réflexions d'Alexandre Holan sur la peinture et sur le dessin ont paru sous le titre « Je suis ce que je vois » aux éditions RS. Et pour le clin d'œil.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Fabric Strat, numéro 15, Zeventem. Zaventem, où sont installés les ateliers Zaventem, une friche industrielle transformée en laboratoire en matière d'art, d'artisanat, de design et d'architecture, et aussi un espace d'innovation et d'expérimentation des matières. Très prochainement, les ateliers Zaventem se déplaceront. Ils s'installeront à la Villa en Pin. L'occupation de cette Villa en Pin par les ateliers Zaventem sera organisée à l'occasion de Collectible Brussels, une manifestation dédiée au design de collection. Dirigeons-nous vers les ateliers Zaventem, Fabrik Straat numéro 15, fondée par Lionel Jadot.
Zaventem Atelier, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Pascal Goffaux, j'ai rendez-vous avec Lionel Jadot.
Oui, je vous dis, vous savez où c'est ?
Non, mais la porte est ouverte, mais je ne sais pas où c'est. Il y a un grand hall, encombré par des machines, des établis, des bois.
Le lieu est une ancienne friche industrielle de 6000 m², une papeterie dont l'origine remonte à la fin du XVIIIe siècle. Les ateliers Zaventem rassemblent aujourd'hui plus de 20 ateliers indépendants occupés par des artistes et des designers aux profils radicaux. Rencontre avec Lionel Jadot, un créateur atypique.
Bonjour, installez-vous.
Lionel Jadot, vous êtes qui en fait ? Vous êtes architecte, architecte intérieur, vous êtes designer ?
Moi je suis autodidacte, je travaille depuis que j'ai 18 ans, donc j'ai 55 ans maintenant, donc ça fait un petit temps. Et j'ai commencé à reprendre un atelier familial qui fabrique des sièges sur mesure, donc c'est là où je suis né. J'ai été plongé dans le bain très tôt, dû à des circonstances familiales, au décès de ma mère, j'ai décidé de reprendre l'atelier. Je voulais aller dans le design, mais ça a poussé les choses. J'ai démarré le design d'objets, j'ai démarré l'architecture intérieure. Après, on m'a demandé de dessiner aussi des bâtiments. Je crée des collaborations avec des architectes quand on dessine un bâtiment de A à Z. Donc, en fait, on essaye d'aller plus loin aussi là-dedans, puisqu'on fait aussi de la scénographie d'une pièce de théâtre. Mais moi, là-bas, je suis fabricant de tabouret.
Donc, tout a débuté dans l'atelier de votre papa.
Exactement.
Et vous créez déjà des jouets en assemblant des choses ?
C'est un peu ça. Donc, on avait un atelier assez grand sur 3000 m² avec 35 artisans. Ma sœur et moi, quand on revenait de l'école, on pouvait jouer dans cet atelier où il y avait une section chaiserie, donc toute la transformation du bois, et une section garnissage, donc le garnissage des carcasses en bois avec le textile. Forcément, il y avait des bancs de travail. Et tout ce qui se trouve par terre, on pouvait l'avoir. Parce que c'était des déchets, de chutes de bois, morceaux de tissu, de cuir, etc., qu'on récupérait. Moi, j'ai fabriqué mes jouets avec ça, j'ai fabriqué mes châteaux, j'ai fabriqué plein de choses avec lesquelles je jouais. Et c'est clair que ça a transformé un peu mon esprit. J'ai appris à regarder les déchets autrement. Et surtout, j'avais droit de vie et de mort sur mes jouets. Je pouvais les scier, je pouvais les brûler. Moi, ça a clairement créé un esprit assez iconoclaste et aussi une aptitude à regarder les choses différemment.
Vous êtes une espèce de Kurzschwitters, rédempteur des déchets, du design.
Kurzschwitters, c'est un grand inspirateur, j'adore son travail. Instinctivement, tous ces éléments perdus m'inspirent, et m'inspirent toujours.
Donc récupérer, assembler,
exactement.
C'est votre processus créatif. On peut présenter quelques objets à base d'assemblage.
Ben voilà, on peut commencer là. Là, on était assis. Donc là, c'est un canapé que j'ai dessiné un peu de manière très organique. Tout est parti de boules en textile que j'ai ramenées d'Inde lors d'un voyage moto. Ces boules que j'ai trouvées dans un petit village où des gens en fait récupèrent des textiles, les déchirent et en font une tresse qui est utilisée par les fermiers comme corde pour créer des clôtures. Et donc j'ai ramené ces boules que je trouve formellement très belles et j'ai dessiné ce canapé autour de ça. J'ai créé ces formes organiques qui s'empilent les unes sur les autres. Le tout est recouvert avec un parachute militaire de seconde main. Donc ça fait partie un peu de mon travail d'assembler des choses comme ces tables basses qui sont faites avec des catalyseurs d'automobile. J'ai dessiné aussi des pièces de puzzle qui ne s'imbriquent pas vraiment les uns dans les autres. Et puis j'ai travaillé avec un guenillier sur cuir qui a utilisé son savoir pour faire des ciselures remplies de feuilles d'or, mais on a un peu mélangé tous les styles. Donc on a du Louis XV, du Louis XVI, des lignes qui se croisent. J'aime bien aller vers une vision plus disruptive. J'ai un imaginaire très fort inspiré par la science-fiction, par un certain académisme que j'ai appris dans les ateliers familiaux, et une grande liberté que j'associerais plutôt à ce qu'on appelle l'écriture automatique, qui a été développée donc par certains mouvements surréalistes.
C'est presque un cadavre exquis finalement.
Complètement.
On prend un élément, on en ajoute un autre, et puis finalement on découvre à la fin de l'assemblage quelque chose.
Exactement, il y a un côté cadavre exquis et ça prend presque un cheminement méditatif. Je ne veux surtout pas l'anticiper parce que je me libère complètement de tout ce qui pourrait être influence, tout ce qui pourrait être lié à une certaine mode. Et c'est pour ça que j'essaie de faire des choses de manière la plus libre possible et toujours avec cet effet ludique. Je laisse les choses se faire d'elles-mêmes et puis après, il y a un résultat.
Oui, c'est étonnant de vous entendre prononcer le mot méditatif parce que le rapport à l'objet est très physique en fait.
Ouais.
Il y a une force, une énergie brute.
Spontanée en fait.
Lionel Jadot, où sommes-nous ici? Les ateliers Zaventem, vous les avez fondés?
Exactement, on est aux ateliers Zaventem, c'est une ancienne papeterie qui a subi des évolutions au cours des ans. La première partie du bâtiment date du 18e, fin 18e, et puis au 19e, ils ont construit une partie, et puis au 20e, ça a continué.
Et ce lieu accueille aujourd'hui des ateliers?
28 ateliers. L'idée du lieu est un lieu dédié en partie au collectible design.
Et les profils sont radicaux?
En fait, les personnes sont sélectionnées par rapport à leur le feu sacré qu'ils ont en eux. Avoir un atelier à Zaventem Atelier ne peut pas être une posture, ça doit vraiment être une décision en soi. Et donc, on aime avoir des profils de gens avec des nouveaux projets, des talents émergents, mais des gens qui ont envie de développer quelque chose et aussi l'envie de collaborer avec d'autres. Et c'est vraiment un vrai lieu de production. Ce n'est pas un lieu ni de showroom, ni d'exposition, c'est un lieu de production, création et production.
Et on travaille différents matériaux, parce qu'il y a du marbre, il y a du bois, il y a du métal.
Il y a du sel, il y a du verre.
Il y a du sel.
Oui, il y a du sel. Roxane Laïdji qui travaille le sel. Il y a aussi des nouveaux matériaux comme la peau d'aubergine qui se fait tanner pour en faire du cuir. Il y a le travail du textile, du tissage. Il y a le travail du cuir. Il y a le travail du bronze, du laiton. Donc il y a vraiment un nombre assez incalculable de types de matières qui sont utilisées sous différentes formes et souvent sous des formes assez expérimentales et nouvelles.
Rencontrons deux designeuses d'exception. Roxane Laïdji transforme le sel en meubles et en objets et Lumi Le Floc métamorphose la peau d'aubergine en matière précieuse. Les pratiques s'inscrivent à l'intersection du design, de l'artisanat, de l'art et de l'architecture parce que les objets influencent nos modes de vie et nos façons d'habiter. Nous rencontrons à présent Roxane Laïdji dans un atelier à Zaventem. Roxane Laïdji.
Bonjour.
On se rend à l'atelier?
Oui, allons-y.
L'escalier est très musical.
Oui, l'escalier est très musical et il date de l'époque du bâtiment.
Et votre atelier est au bout du couloir?
Tout au bout du couloir, c'est ça. C'est très ensoleillé durant la journée, donc c'est très agréable.
Vous êtes né en 1992 à Paris, diplômé du Design Academy de Eindhoven, social designer, designeuse. Vous êtes sensible à l'écologie, à l'environnement, aux minéraux recyclables, aux techniques de production traditionnelles. Et vous avez donc installé votre studio aux ateliers Zaventem. Et vous avez fondé Marbled Salts. Donc c'est une ligne, comment la présenter? C'est une ligne de mobilier, d'objets en sel marin.
C'est le nom de la matière à la base et c'est devenu le nom de la marque avec le développement du studio.
Et vous transformez le sel marin en objet, en meuble.
Exactement.
On a l'impression que c'est du marbre là.
Voilà. Et donc la particularité de cette matière, c'est qu'elle est principalement organique et naturelle à 80 à 90% en fonction du volume des objets et que sa blancheur permet d'imiter de la pierre naturelle, y compris de l'albâtre ou de l'onyx, et qu'on pigmente nous-mêmes dans la matière, et donc on peut arriver à imiter un peu n'importe quel résultat.
Alors ce n'est pas une ressource minérale rare, il n'a pas non plus une grande valeur monétaire, et pourtant il n'a pas de prix, on dit le sel de la vie.
Oui, tout à fait, et la poésie, je trouvais, du projet, c'est la symbolique du sel, que ce soit spirituellement, que ce soit... historiquement, en fait, on a bâti des empires pour le sel. C'était effectivement l'or blanc, hein, durant l'Antiquité et jusqu'au, je pense, 16e, 17e siècle. Et aujourd'hui, c'est une ressource qui n'a plus aucune valeur, qui est presque considérée comme un déchet. Donc je trouvais ça intéressant de me dire que quelque chose d'aussi universellement compris, parce que c'est aussi présent dans toutes les cultures, vu que ça vient de la mer, ça vient de notre mère à nous, soit aussi commun et banalisé.
Votre père est iranien, c'est un autre héritage poétique, vous faisiez allusion à la poésie, philosophique également. Est-ce qu'il y a dans votre démarche presque une quête spirituelle ?
Oui, je pense que oui. Il y a une quête de soi déjà. Tester un peu ses propres limites, comprendre ce qu'on aime et pourquoi on l'aime. Et oui, se découvrir, c'est un peu une quête spirituelle.
Et alchimique aussi, parce qu'en fait, le sel, il est fluide et vous réalisez des objets solides.
Oui, c'est une transformation de la matière.
Alchimique.
Alchimique, et il y a un grand travail de la main donc, et de la gestuelle.
Et l'approche est écologique.
Oui, l'approche de base, elle est écologique. Après, malheureusement, c'est sûr qu'on a dû faire quelques compromis avec le développement des projets, mais ça reste dans nos valeurs de base.
Vous colorez avec des pigments naturels ?
Pigments naturels, il n'y a que les résines.
Vous fixez de quelle manière ?
En fait, l'agglomérant, il est purement naturel, mais la substance de finition, elle n'est pas naturelle. Donc c'est une résine époxy. Et pourquoi on utilise une résine époxy et pas d'autres vernis ? C'est parce que la plupart des autres vernis écologiques sont développés à base d'eau. Et le sel réagit à l'eau, donc on ne peut pas utiliser ça. Et s'ils ne sont pas développés à base d'eau, ils jaunissent très rapidement dans le temps et ils sont très sensibles à la chaleur. Et donc on a préféré se dire on va utiliser que 5 à 10 % de matière, entre guillemets, issue de ressources de la pétrochimie, mais qui vont permettre de délivrer des objets qui durent dans le temps. Voilà.
Et vous avez une salle de séchage ?
Oui, c'est ça.
Que voit-on là ?
Alors, on voit des prototypes de lampes. On fait tout sur commande et tout sur mesure. Voilà, donc là, il y a des lampes, il y a des tables basses, il y a des tables d'appoint, il y a une console flottante, il y a des bols et des vases, principalement.
Nous espérons à présent rencontrer Loumi Le Floch, qui travaille les épluchures d'aubergines dans un atelier à Zaventem.
Bonjour.
Vous êtes ?
Je suis Loumi Le Floch.
C'était vous que j'espérais voir. Je vous suis dans votre atelier.
Bien sûr, venez. Troisième étage, on risque d'être un peu essoufflé en arrivant là-haut.
L'escalier est très musical.
Oui. Et donc là, au 26e atelier, vous allez découvrir mon atelier où je crée les matières qui sont faites en épluchure d'aubergine. Et comme je vous le disais, je suis un peu essoufflée.
Effectivement, non. Il y a un parfum là, non ?
Oui, ça sent un petit peu la cuisine, parce que c'est ici que nous cuisons les épluchures d'aubergine. Je récupère dans un restaurant libanais les épluchures d'aubergine, et ensuite je les cuis, je les transforme, je les travaille une à une pour devenir ces matières souples et translucides.
Precious peels,
épluchures précieuses en français.
Donc à partir de déchets finalement ?
Exactement, c'est vraiment une matière qui n'a pas de valeur, et l'idée c'est de lui en donner une après le travail du geste et la transformation.
Et vous êtes designeuse textile, diplômée de Lacan, designeuse matière en fait.
Oui, exactement. Mais moi, j'ai fait des études de design textile. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon parcours, c'est devenu aussi plus artistique et c'est devenu en plus grand format. Et donc, il y a eu plusieurs étapes. Au tout début, c'était de la création d'échantillons et de matières qui s'appliquaient plutôt à l'architecture d'intérieur. Et maintenant, au fil de la recherche, ça s'est dirigé plutôt vers l'art, vers le design, l'architecture, bien sûr, mais voilà, des pièces uniques.
Que voit-on là ?
Tout ceci, ce sont des échantillons, ce sont des recherches, donc autant au niveau de la couleur que du motif, que de l'organisation de la surface. C'est tous des tests qui font 15 par 15 cm à peu près et qui me permettent ensuite de développer des plus grandes pièces. Mais c'est vraiment le départ de la recherche. Je crée ces nouvelles matières qui après me servent de répertoire pour créer du plus grand.
Sur une paroi lumineuse, effectivement, on perçoit cette qualité translucide qu'a cette matière.
Exactement, c'est un peu de l'ordre du vitrail, comme un vitrail prend toute sa vie avec la lumière.
La texture fait penser au papier et au tissu, et vous le dites d'ailleurs, la matière que vous créez a la souplesse du tissu, la délicatesse du papier et la transparence du vitrail.
Exactement, c'est une texture qui est assez unique. J'aime bien rapporter au papier, au tissu, au vitrail.
On sent le côté organique, il y a une part d'imprévisible dans votre démarche, non ?
complètement. Chaque pièce est unique parce que chaque épure d'aubergine a une courbe et des formes uniques. C'est inévitable d'avoir toujours des pièces uniques. On ne peut pas faire de l'industrialisation ici à l'atelier. Chaque pièce est différente.
Vitrail ou vitrage, ceci ?
Oui, ceci, c'est un vitrail. C'est une des premières tests qu'on avait réalisé à l'atelier. En fait, la matière est glissée entre deux plaques de verre. Et ensuite, c'est monté dans un châssis et c'est monté au plomb comme un vitrail classique qu'on peut voir dans les églises. C'était une des premières recherches. Et ensuite, c'est devenu ce que vous voyez là à l'atelier, où là, c'est feuilleté dans du verre. C'est plus sobre. C'est vraiment la suite de la recherche.
C'est aussi une chimie, finalement, pour obtenir ces coloris.
Oui, c'est complètement de la chimie, parce que toutes les couleurs sont obtenues par des réactions d'acidité. C'est le pH qui réagit, et donc on arrive avec du sulfate de fer, par exemple, à obtenir des bleus, avec du jus de citron pour les roses, des couleurs qui ont l'air d'être tout sauf naturelles, mais qui sont en fait issues d'une forme de chimie.
Et votre démarche est écologique ?
Complètement écologique. La matière, elle est complètement naturelle. Il n'y a vraiment aucune matière qui est ajoutée. J'aime bien même m'amuser à dire que c'est comestible, tellement c'est naturel.
Un beau paravent, là.
Oui, c'est une des dernières pièces qu'on a réalisées à l'atelier. Et la différence avec cette pièce, c'est qu'on a retravaillé les épluchures dans une finesse plus importante. Donc au scalpel, on vient redécouper et on arrive à obtenir des aspects plumes, plumage, plumasserie.
Et la matière est durable ? Les couleurs ne changent pas ?
Non,
ne
les,
bougent
couleurs,
pas.
Les couleurs ne changent pas, ne bougent pas. Et en termes de durabilité, c'est pour ça que je le compare aussi au papier. C'est parce qu'en fait, le papier, évidemment, il est durable, mais il faut quand même en prendre soin, il faut l'épargner de l'humidité. Puis ça reste une matière qui est délicate. Donc voilà, il faut en prendre soin, il faut avoir conscience de sa délicatesse.
À vous annoncer que Lumi Le Floc, Roxane Laïdji, Lionel Jadot et d'autres designers et artistes des ateliers Zaventem s'installeront bientôt à la Villa en Pin, entre le 11 et le 19 mars. Pendant plus d'une semaine, 32 créateurs présenteront en temps réel des objets de design de collection et leur intervention réactivera l'architecture de la Villa en Pin, de cette demeure Art Nouveau qui retrouvera ses fonctions domestiques originelles. Travailler, cuisiner, se reposer, vivre et rencontrer les visiteurs. Cette transformation du lieu s'opérera en parallèle de la manifestation Collectible Brussels. Nous retrouvons Roxane Laïdji et tout d'abord Lumi Le Floc.
L'idée, ça va être de présenter une tenture et un paravent qui seront à proximité des fenêtres pour bénéficier de la lumière. Ça va rencontrer toutes les textures qui sont présentes à la Villa en Pin et à la Fondation Beaugossian. Ça peut contraster à la fois avec cette matière qui est organique. Il y a beaucoup de marbre à la Villa en Pin. C'est toutes des matières qui peuvent bien dialoguer entre elles.
Roxane Laïdji.
Moi, je présente une baignoire. Une baignoire en sel, donc c'est quand même, c'est un peu le soleil noir de la mélancolie, c'est un peu une oxymore dans une phrase.
Qui ne craint pas l'humidité.
Qui ne craint pas l'humidité, que j'ai développé avec Lionel Jadot pour une première exposition à Hong Kong. Et en parallèle de ça, j'expose des lampes, des petites tables, et je collabore avec une artiste qui, elle, recycle des pampilles de lustre et qui va faire un lustre en pampilles avec ça.
Voilà. Et vous allez occuper la salle de bain.
C'est ça, la salle de bain de madame. Et ça va être très, très madame. Ça va être très féminin comme agencement, mais je pense que ça va être joli, donc on est très contents.
Les ateliers Zaventem à la Villa en Pin, du 11 au 19 mars, dans le cadre de la manifestation Collectible Brussels. Façon de voir est soutenue par la Direction des arts plastiques contemporains et par la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Réalisation Pascal Goffaut.
Par Oui Dire, chaque dimanche de 20h à 22h sur la première et quand vous voulez sur Ovio.